de la jeune démocratie géorgienne. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Les sports avec la finale des internationaux de tennis d'Australie à Melbourne. Les premiers échanges débutent dans une vingtaine de minutes. C'est la finale femme et c'est la japonaise Naomi Osaka qui affronte l'américaine Jennifer Brady. En football, 26e journée de Ligue 1 française, Lyon est allé s'imposer à Brest 3-2 hier soir. Les Lyonnais reprennent provisoirement la tête avant Lorient-Lille et PSG-Monaco. Demain, ce samedi, on suivra d'abord Saint-Etienne-Reims et Nantes-Marseille. RFI, 9h et quasiment 10 minutes ici à Paris. Merci de nous rester fidèles. Bonne journée à tous.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible. J'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Né à Barbezieux-Saint-Hilaire, Charente, le 29 janvier 1967, est un écrivain, dramaturge et scénariste français. Il a été également critique littéraire et animateur de télévision. Il se fait connaître en tant qu'écrivain avec le roman En l'absence des hommes, en 2001, qui reçoit plusieurs prix. Il a publié une vingtaine de romans, dont plusieurs ont été adaptés pour le cinéma ou le théâtre, et il a participé à l'écriture du scénario de plusieurs téléfilms. Nous avions déjà réalisé une émission sur son roman « Arrête avec tes mensonges ». Aujourd'hui, il s'agit de l'une des 14 nouvelles qui composent la 7e édition de « 13 à table », sortie en novembre 2020 au profit des Restos du Cœur et intitulée « Un film de Douglas Sirk ». Oui, commençons par elle, parce que c'est elle qui a pris le plus de risques dans cette histoire, elle qui avait le plus à perdre, elle qui a hésité le plus longtemps aussi, et pour cause. Claire Jourdan. Issue de la bonne bourgeoisie bordelaise, celle des vignobles, des châteaux. Le père dirige le domaine avec l'élégance dédaigneuse des possédants, l'insupportable bonhomie des héritiers. La mère élève la progéniture, deux fils, une fille. Claire est la petite dernière, survenue comme un caprice ou comme une erreur. Qu'importe, on n'attend rien d'elle. Le pouvoir sera transmis aux garçons. Les filles, on les marie à l'église le moment venu. Enfant, elle va souvent se promener seule au milieu des pieds de vigne. Elle foule la terre, s'accroupit pour contempler les racines parce qu'on lui a raconté un jour qu'elles peuvent plonger jusqu'à 5 mètres de profondeur. Elle caresse la nervure des feuilles. Elle aime cueillir des grappes quand le raisin n'est pas encore mûr. Elle aime l'amertume des grains craquant sous la dent. Elle revient parfois le visage griffé par les sarments. Elle est cette fillette au visage griffé. À propos de l'enfance, elle dit « Je me souviens du vert et bleu. Le vert des vignes, le bleu des ciels de Gironde. » Elle ne parle pas du rouge. Pourtant, c'est la couleur du vin. Mais le vin ne l'intéressait pas, ou elle en avait peur. Elle prétendait que ça ressemblait au sang d'un animal. Ça faisait rire les adultes. Elle, ça ne la faisait pas rire. Non, décidément, elle préfère se souvenir du vert et du bleu. Et puis l'enfance s'arrête le jour où la famille quitte le domaine pour s'installer dans un grand appartement à Bordeaux. La mère en a eu assez des vignes à perte de vue, de la blondeur des pierres. Elle cherche le mouvement, la mondanité. Ce seront les allées de Tourny, dans le triangle d'or. Ils habitent côté père, bien sûr, un immeuble à la façade Louis XV. La chambre de Claire donne sur la cime des tilleuls le toit du carrousel. Dans le lointain, les colonnes du grand théâtre. Elle dit « J'ai eu une adolescence très privilégiée et très ennuyeuse. » Pour échapper à l'ennui, elle fait des études. Pas de commerce comme ses aînés, non, d'anglais. Une lubie. Elle a vu les films de Hitchcock, de David Lean, de Joseph Mankiewicz au cinéma. On la laisse faire, quelle importance si ça l'occupe. Elle persévère, obtient sa maîtrise. La première femme dans la famille à être allée aussi loin. On la regarde comme une bête curieuse. Mais il ne faudrait pas qu'elle aille croire qu'elle pourrait avoir droit à l'émancipation. À 22 ans, elle épouse un notaire, de 7 ans son aîné, une grosse étude, une belle situation, des gens si fréquentables. Du reste, on les fréquente à l'aide de Tourny. Quand on l'interrogera sur ce mariage qui semblait de raison plus que d'amour, elle dira « C'était la seule occasion de partir, de m'affranchir. » Pourtant, elle n'ira pas très loin, à place des Quinconces. 500 mètres seulement la séparent du domicile familial. Elle l'assure aujourd'hui, ces 500 mètres ont fait toute la différence. Deux enfants naissent, très vite, un garçon, une fille, le choix du roi. Claire fait tout comme il faut. Une incongruité tout de même, elle entend travailler. Son mari s'en étonne, à quoi bon travailler quand on vit dans l'aisance? Mais il n'insiste pas. Elle passe un concours, l'obtient, devient professeur dans un lycée de la ville. Un salaire de misère, mais un statut respectable. L'honneur est sauf. Quelques années plus tard, elle décide de reprendre le ciné-club moribond de l'établissement. En souvenir de ses emportements adolescents, elle programme essentiellement des films américains. Elle raconte « Je leur ai fait connaître Douglas Sirk. Demain est un autre jour, tout ce que le ciel permet. On a oublié, mais ce sont de très grands films. » Elle omet de signaler que dans le premier, un homme espère échapper à une vie bien trop réglée grâce à une femme espiègle, enjouée. Mais ses enfants, des tyrans égoïstes, font échouer son espérance et le renvoient à sa routine. Et dans le second, une veuve qui mène une existence terne mais aisée, est attirée par le fils de son jardinier, bien plus jeune qu'elle et d'un milieu bien différent du sien. Les films qu'on aime disent toujours quelque chose de nous. Le temps passe et à peu près rien ne se passe. Les enfants grandissent. L'office notarial est florissant. Sur la place des Quinconces, les arbres retrouvent leurs feuilles au printemps et les perdent à l'automne. C'est un spectacle immuable et déprimant.
Parlons de lui désormais, puisqu'il faut être deux pour faire une histoire. Étienne Lanzac. Un prénom qui fleure bon la France d'antan, qu'on ne donnait presque plus aux nouveau-nés quand ils voient le jour. Mais le grand-père s'appelait ainsi, va pour Étienne. Naissance à Angoulême, une cité endormie construite autour d'une cathédrale. Deux reliefs, l'un représentant Saint-Martin partageant son manteau avec un mendiant, l'autre Saint-Georges terrassant le dragon et sauvant la fille du roi. Étienne dira « Je les ai souvent regardés, ces reliefs, sans qu'on sache véritablement ce qu'il convenait d'en déduire. » La ville est juchée sur un plateau qui domine la vallée de la Charente. Elle est ceinte de remparts. L'enfant marche plus souvent qu'à son tour le long de ses remparts. Il grimpe sur les murets, tient l'équilibre, les bras en croix. Un jour, sa mère le surprend et, terrorisée, lui fait jurer de ne plus jamais recommencer. Il jure et ne lui obéit pas. Il recommence dès le lendemain. Il précisera « c'était plus fort que moi ». Les parents, justement. Ils sont pharmaciens, possèdent une officine non loin du Champ de Mars. Étienne a un frère aîné qui lui aussi deviendra pharmacien. Il se jure d'échapper à la malédiction. Imiter n'est pas son genre. Être pharmacien n'est pas un destin. Dès lors, il serait tentant de l'imaginer en Rastignac, natif d'Angoulême, comme lui. Vous savez, le héros de Balzac, jeune ambitieux qui monte à Paris, devient banquier, louvoie dans la bonne société, amasse des richesses, conquiert le pouvoir. Mais Étienne n'est pas cynique. Il préfère Dumas à Balzac. Il se verrait plutôt en corsaire, partant à l'abordage. Du reste, son modèle n'est-il pas ce fameux grand-père dont il porte le prénom et qu'il va rejoindre dès qu'il le peut, à Biarritz, dans sa maison face à la mer, face au grand vent. Un grand-père qui lui raconte son passé de marin, d'aventurier comme on n'en fait plus. Sans doute le vieillard en rajoute-t-il un peu pour complaire à l'enfant. Sans doute invente-t-il des expéditions, des péripéties pour que ses yeux brillent. Mais enfin, il est certain qu'il n'a pas eu une existence ordinaire. Et c'est tout ce qui réjouit ce gamin qui aspire à autre chose, sans savoir quoi. En attendant, il se contente d'aller faire du surf, comme font les autres garçons. Les rouleaux ne lui font pas peur, mieux ils l'attirent. Et puis, sur une planche, comme sur les remparts, il aime tenir l'équilibre et surplomber les éléments. Parfois, il est englouti par les eaux en furie, peine à revenir à la surface, manque de se noyer, mais s'en sort toujours. Depuis la plage, son grand-père l'applaudit. Les applaudissements l'encouragent. Pour lui aussi, l'enfance s'arrête avec un déménagement. Alors qu'il a 12 ans, ses parents se séparent. Sa mère s'en va vivre à Bordeaux. Il la suit. Il ne regrette pas Angoulême. Au sujet du divorce, il ne s'exprime pas. On ignore s'il s'agit d'une blessure intime, de celle qu'on porte à jamais et qui font souffrir en silence, ou s'il considère, au contraire, que c'était la meilleure façon de mettre fin à un désordre, des disputes incessantes, un éloignement irrémédiable. D'une manière générale, il ne parle pas des choses de l'intimité. Au collège, puis au lycée, il est un élève brillant. Il collectionne les meilleures notes, les premières places. Devient aussitôt une tête à claque, un souffre-douleur. Il n'en a cure. Il endure les humiliations sans s'épancher jamais. Il voudrait plaire, pourtant, il voit les garçons qui plaisent. Il aimerait leur ressembler, mais ça n'arrive pas. Ses bons résultats le rendent invisible ou détestable. Un jour, on lui parle du ciné-club. Il aime le cinéma. Il va souvent, mais ne voit que les films qui sortent. Il se dit que ça doit être bien. Aussi, les vieux films en noir et blanc, les classiques, les pépites oubliées, les westerns ou les comédies musicales en technicolor. Il s'inscrit. Voilà, la rencontre peut avoir lieu.
De son côté, Claire remarque à peine Étienne. Elle est heureuse, bien sûr, d'accueillir un élève supplémentaire, mais il n'est qu'un parmi les autres. Et des élèves, elle en côtoie beaucoup. Depuis le temps, elle s'intéresse à eux, ça ne fait pas de doute. Ils sont même souvent sa plus grande motivation dans l'existence, et on prétend qu'elle sait leur parler et même les captiver. Pour autant, elle conserve ses distances. Pour lui, c'est différent. D'emblée, il ressent une sorte de trouble qu'il ne sait pas définir précisément. Il n'a encore jamais aimé. Comment saurait-il ? Comment reconnaîtrait-il un sentiment qu'il n'a jamais éprouvé ? Et puis, on l'a mentionné, les sentiments, ça n'est pas tellement son registre. Il fait appel à son intelligence pour tenter de comprendre, mais son intelligence ne lui est d'aucun secours. Et c'est précisément lorsqu'il comprend cela, l'inutilité de son intellect, qu'il finit par admettre qu'il ne peut s'agir que d'un élan amoureux. D'autres que lui en seraient catastrophés. Il est lycéen, elle est professeure. Il a 16 ans, elle en a 37. Il est sans expérience, elle est épouse et mère, elle le repoussera inévitablement. Ses seules considérations devraient l'arrêter, et c'est exactement l'inverse qui se produit. Puisque tout rapprochement semble impossible, il faut le tenter. Toujours partir à l'aventure, lui serine son grand-père. Il la drague, énonçant les choses clairement. Pas devant les autres, il n'est pas fou, mais chaque fois qu'il se retrouve seul avec elle, en général après la séance, après la discussion, quand elle range le matériel, quand elle referme la salle, quand elle regagne le parking, il la drague avec délicatesse, avec courtoisie, avec style, avec éloquence, mais il la drague. Au début, elle s'en amuse. Il ne peut pas être sérieux. Elle met un tel entregent sur le compte de sa malice ou de l'audace propre à la jeunesse. Elle n'y accorde pas d'importance. Elle s'en retourne retrouver les arbres nus de la place des Quinconces. Puis elle finit par s'en inquiéter. Tout de même, ce garçon est très insistant. Certes, il est brillant, virevoltant, courageux. Certes, il s'intéresse au cinéma, décrypte mieux que personne les histoires, les plans, le jeu des acteurs. Certes, elle n'est pas son professeur, juste la personne qui s'occupe du ciné-club. Mais enfin, il ne saurait être question d'un rapprochement. Elle veut bien de son affection, elle n'est pas bégueule, mais rien de plus. Il ne renonce pas. Sur la place des quinconces, les arbres refleurissent. Alors elle se raccroche à tous les interdits, ceux que pose la loi, la bonne éducation, le respect des serments du mariage, le sens du ridicule ou la raison. Au moment où elle comprend qu'elle a besoin de faire appel à ses proscriptions, elle comprend qu'il est trop tard, que c'est fichu, qu'elle est allée trop loin, qu'elle ne va pas savoir résister au garnement. Elle cède. Ce faisant, elle commet la plus grande des transgressions. Une transgression inconcevable au sens premier du terme. Elle n'aurait pas pu la concevoir. Elle se situe au-delà de son imagination, de son entendement. Une dangereuse infraction aux règles. Une désobéissance pour celle qui a toujours fait ce qu'on attendait d'elle. Un manquement à ses engagements. Une faute pour celle qui a été élevée dans la peur de Dieu. Plus tard, elle dira « C'était plus fort que moi ». Les mêmes mots que ceux employés par Étienne tandis qu'il marchait sur la pierre glissante des remparts d'Angoulême. Elle est saisie par la panique. Lui, il exulte. Il a conquis sa promise. Car il ne fait pas de doute dans son esprit que cette femme sera un jour sa femme. Il sait cependant tout ce que ce basculement représente pour elle, toute la terreur intime qu'elle charrie. Mais il est tout à son bonheur, un bonheur inédit. Don't explain what is there to gain. Skip that lipstick. Don't explain. Alors débute une liaison clandestine. Car ils comprennent d'emblée, sans avoir même besoin de le formuler, qu'ils ne peuvent s'aimer qu'à l'abri des regards et dans le silence absolu. Il leur faut élaborer des stratagèmes, trouver des subterfuges, dégoter des planques, fabriquer des mensonges, fournir des alibis. Ils volent des heures, filent en bagnole vers l'océan, reviennent rapidement afin que personne ne remarque leur absence. Se donnent des rendez-vous dans des cafés à l'écart du centre où nul ne les connaît. Se rejoignent dans des hôtels où ils prennent soin d'arriver et de repartir séparément. Elle ne va jamais chez lui. Il ne se rend jamais chez elle. Comme si ce sacrilège-là n'était pas acceptable. Comme si dans la transgression, quelque chose pouvait encore résister. Il leur faut faire attention en permanence à leurs gestes, à leurs regards. Ne jamais se laisser aller. Ne jamais baisser la garde. Quand ils se tiennent dans la même pièce, nul ne doit les soupçonner. Ils inventent un langage codé, mis également sur la différence des autres, ou plutôt sur leur incrédulité. Qui se figurerait une chose pareille? Ils ne peuvent faire confiance à personne, tout doit demeurer secret. Les autres, y compris les proches, sont tous des adversaires en puissance. Et pourtant, ce serait si bien de pouvoir partager avec quelques-uns. C'est si frustrant de garder l'allégresse pour soi. Une telle ascèse est épuisante, bien sûr. Et les consume. Mais il y entre curieusement de la jubilation aussi, parce que cela n'appartient qu'à eux, parce que ça ne regarde que, parce que ça fabrique une intimité hors du commun, parce que ça procure le frisson du danger, et parce que c'est de l'amour, voilà. Pour lui, c'est réellement la première fois. Après tout, il sort à peine de la tumultueuse période de l'adolescence. Certes, il a eu des inclinations, des élans, des désirs, toujours pour des filles de son âge, mais tout s'est fracassé. L'explication est fort simple. Il fallait que ça compte pour qu'il se lance. Il est ainsi, bêtement romantique. Cela encore, il le tient de son grand-père. L'intensité ou rien. Tel est le viatique de l'ancien marin. Et qu'on ne s'y trompe pas, pour elle aussi, d'une certaine manière, c'est la première fois. La première fois qu'elle aime, vraiment. Qu'elle est emportée. Qu'elle ressent cette extrême vivacité. Elle a connu la tendresse, une compagnie rassurante, une présence familière, peut-être même des instants charmants. Là, c'est tout à fait autre chose. Un tourbillon, un vertige. Elle n'a jamais connu la fougue, jamais la ferveur. Et pour eux deux, au fond, il s'agit d'une émancipation, d'un affranchissement. Enfin, quitter les oripeaux de l'enfance, pour lui, et sa famille pesante et prévisible, et ses habits de bon garçon et ses routes toutes tracées, enfin choisir par lui-même, décider de son sort, enfin grandir. Et pour elle, rompre avec son éducation, ses obligations morales.
rompre avec son milieu, son carcan, rompre avec son ennui, faire craquer le vernis, vivre dans un film de Douglas Sirk qui finirait bien. Pour eux deux, il s'agit également d'une occasion formidable, inespérée, de construire leur propre identité, d'exister à part entière, de conquérir leur liberté. Il est en avance, elle est très en retard. Il faut reconnaître que paradoxalement, il est le plus vieux des deux. Il a la détermination, la résolution, l'aisance, la ténacité, le sang-froid que procure l'âge souvent. De son côté, elle est flottante, bousculée, affolée, comme on l'est dans l'adolescence par exemple. C'est lui qui l'entraîne, elle qui suit, lui qui surprend, elle qui s'étonne. Cependant, la raison qu'on pourrait nommer aussi discernement ou bon sens, la raison reste de son côté à elle. Elle demeure persuadée que tout cela est pure folie. Elle redoute qu'il ne l'idéalise, qu'il ne la voit plus belle, plus intéressante qu'elle ne le serait en réalité. Il faut dire qu'on ne lui a jamais dit qu'elle était belle. Ni sa mère, ni son mari, ni personne. Elle a du mal à y croire. Et elle songe que ça ne peut pas durer. Elle dit « Un jour, tu cesseras de m'aimer, c'est obligé. » Il lui objecte que son discours ne relève pas de la rationalité. Elle actionne juste un mécanisme d'autodéfense.
Et puis, un jour, parce que le bonheur des autres a toujours quelque chose d'insupportable, la rumeur surgit, celle de leur liaison. Insidieuse d'abord. Ce ne sont que des allusions, des murmures, des insinuations, des paroles désobligeantes sifflées entre les lèvres au loin. Les gens ne sont pas sûrs, pas affirmatifs. Ils ont besoin de vérifier. Ils lancent des piques pour savoir comment les intéressés réagissent. Ils foudroient du regard pour provoquer leur malaise. Cette rumeur, même étouffée, les intéressés l'entendent. Elle parvient à leurs oreilles. Mais d'abord, ils décident de ne pas en tenir compte. Y répondre, ce serait y apporter du crédit. L'indifférence est la plus efficace des dénégations. Seulement voilà, cette satanée rumeur prend de l'ampleur. Désormais, elle se colporte, se partage. Les gens raffolent des ragots, du sensationnel. Et surtout, elle se nourrit d'anecdotes, toutes fausses, d'exemples tous inventés, d'épisodes tous fantasmés. On les aurait vus s'embrassant sous un porche, se tenant la main dans une rue, s'échangeant des œillades langoureuses après une séance du ciné-club. Elle aurait quitté le domicile conjugal, il louerait une chambre en ville. Rien n'est exact, mais qu'importe. Il faut bien alimenter la machine infernale. La rumeur les cerne, se rapproche, les assiège. Ils ne sauront jamais d'où elle est partie, ils ne sauront jamais ce qui a pu les trahir. Mais désormais, les voilà sommés de rendre des comptes. Ils décident de ne plus se voir pendant quelque temps, mais rien n'y fait. Ils devinent qu'il est déjà trop tard. Et ils sont les mieux placés pour savoir que même détestable, même exagéré, la rumeur contient une vérité fondamentale. C'est Claire qui finit par céder. Elle dit « Je dois parler à mes enfants. Je le leur dois. Ils ne peuvent pas continuer à vivre sous les persiflages, les colibets. » Elle sait qu'ils ont été pris à partie à la sortie du collège, que leurs camarades leur répètent ce que se disent leurs parents. Étienne se rend aux arguments de la mère blessée, inquiète. Et puis surtout, il a compris que céder, c'est-à-dire avouer, est la preuve d'amour la plus éclatante. Car la résolution de Claire est faite. Si elle se prépare à avouer, elle n'entend pas renoncer, pas du tout. Quand la situation est exposée, c'est une vanne qui s'ouvre. C'est un déferlement qui se produit. Il y a d'abord la stupéfaction. C'est une plaisanterie. Puis l'incompréhension. Mais quand ? Comment ? Pourquoi ? Puis le mépris. Ces choses ne se font pas. Puis le dégoût. C'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Puis la haine. Vous êtes des pervers. Les gens comme vous méritent la prison ou l'enfer. Il y aura ici ou là des mots vulgaires, des insultes obscènes, des attaques ordurières, d'une bassesse qui les rend inoubliables. Inoubliables. Le scandale est gigantesque. Les scandales sont forcément gigantesques dans les milieux étriqués. Le bannissement presque immédiat, pavlovien. Le mari de Claire est abasourdi et furieux. Les enfants bouleversés, les allées de tournis sous le choc. Cela, elle s'y attendait et à certains égards, elle l'admet. Elle peut juste tenter d'arrondir les angles, sans grand espoir néanmoins. compter sur les vertus du temps. On assure qu'il guérit de tout. Mais même les amis, les proches, les collègues sont consternés. Ils hurlent à l'hérésie, choisissent l'excommunication. Elle perd tout le monde sans exception. Elle dira, c'est comme s'ils m'avaient tous tourné le dos d'un coup. Étienne affronte à peu près le même rejet, viscéral. Mais à lui, on trouve une excuse, celle de son âge, quand pour Claire, il s'agit d'une circonstance aggravante. Les parents du gamin exigent une rupture immédiate avec la fautive, la pécheresse. Et l'envoient illico terminer ses études à Toulouse. Ils ont encore tout pouvoir sur lui, ils peuvent le déplacer comme bon leur semble, comme on le fait avec un meuble. Plus tard, Étienne aura ces mots. On a été mis au banc, on a été des parias. Il ne pardonnera jamais. Il pourrait vaciller et même rendre les armes face à une telle violence, à un tel dépeuplement, on le comprendrait facilement. Elle se souvient de la victime raisonnable, à la robe déchirée, au regard d'enfant perdu, découronné, défiguré, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. Des vers d'Éluard cités par Pompidou. Il pourrait se dire égoïstement « J'ai une vie à vivre, à quoi bon l'hypothéquer d'emblée ?» Cependant, l'épreuve les conforte dans leur certitude. Ils doivent être semblables. Les crachats, les préjugés, la bien-pensance des bourgeois, les leçons de morale, des assis, les désertions, les menaces n'y changeront rien. La perspective d'une existence entièrement chamboulée, d'un destin à inventer, n'y changera rien. Ils doivent rester ensemble. En attendant, ils s'aiment à distance. Se téléphonent chaque jour, chaque nuit, des heures durant, parfois jusqu'à l'épuisement, jusqu'au petit matin. Lui poursuit des études brillantes, avec toujours le désir d'être le premier, pour en remontrer aux autres, pour leur prouver qu'ils ont eu tort de le mépriser. Elle met ses affaires en ordre, avec une résolution qui l'impressionne elle-même, quitte son mari, divorce, rassure ses enfants, remet en place ses parents, emménage dans un nouvel appartement loin des allées de Tourny et de la place des Quinconces, se fait de nouveaux amis, et continue d'animer le ciné-club, de proposer des films de Douglas Sirk. Ses nouveaux élèves ont parfois entendu parler de son histoire et la plupart s'en fichent. Que je vous dise encore, 10 ans plus tard, alors que la tempête n'est plus qu'un lointain souvenir, ils se marient. En nous mariant, nous ne régularisons rien parce qu'il n'y avait rien à régulariser. Nous ne rentrons pas dans le rang, nous tenons juste une promesse que nous nous sommes faite et à laquelle nous étions les seuls à croire. Que je vous dise enfin, au cas où cette histoire vous en aurait rappelé une autre, et afin que vous soyez assurés que toute ressemblance serait purement fortuite, il n'est pas devenu président de la République, elle n'est pas devenue première dame. Ils ont tout de même vécu très heureux. Romain Puertolas, auteur de 45 ans, a connu un grand succès avec son roman dont le titre en était déjà un, L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA. Dans la nouvelle L'amour volé, qu'on peut lire dans le dernier recueil de 13 à table, écrit au profit des Restos du Cœur, on retrouve sa veine comique empreinte d'émotion à l'évocation de cette histoire d'amour hors du commun. Écoutez attentivement. Jeudi 10 août 1911.
Je vais y aller, Lisa. Mais je reviens demain, comme tous les jours, ma chérie. D'accord ? Elle le regarda de ses yeux rieurs sans rien dire. Elle semblait perdue dans des contrées lointaines. Il était debout devant elle, mais ce n'était pas lui qu'elle voyait. Elle voyait à travers lui, comme s'il eût été transparent, invisible. C'était d'une ironie à en mourir. Vincenzo était vitrier de profession, et celle qu'il aimait le voyait comme une vitre. Vincenzo tentait de percer ce visage, aller au-delà, pénétrer sa conscience et la retrouvait telle qu'il l'aimait. « Je vais y aller, Lisa, mais je reviens demain, comme tous les jours, ma chérie. D'accord ?»
Il aurait aimé lui caresser la joue, mais il n'osa pas. Il se contenta de sourire, aimant, fou d'amour. Puis il tourna les talons. En rentrant chez lui, Vincenzo continua de penser à Lisa. Elle occupait toutes ses pensées, toujours, partout. Il se prit à rêver qu'elle fût là, à la maison, avec lui. L'idée se faisait chaque jour de plus en plus obsédante. Elle l'attendrait dans le salon. Il lui raconterait sa journée de travail. Il n'espérerait rien d'elle, juste qu'elle l'écoute, juste qu'elle soit là. Il serait heureux. Oui, elle serait bien plus heureuse ici, avec lui, que là-bas, au milieu de tous ces inconnus. Ici, ce serait plus personnel. Il s'occuperait d'elle, mieux que tous ces gens, parce qu'il l'aimait, lui. Et puis, elle était italienne, comme lui. Leur destin était d'être ensemble, de retourner ensemble en Italie. Elle n'avait plus rien à voir avec Paris, avec la France. Je te ramènerai au pays, ma Lisa. Cette idée se faisait de plus en plus présente dans son esprit. Pour se sentir moins seul, il se remémora leur première rencontre. Il ne se souvenait plus du jour de l'année, mais était-ce le plus important ? En ce temps-là, il travaillait comme vitrier pour la maison Gobier, qui offrait de temps en temps ses services au Louvre. Ce fut là qu'on la lui présenta. Il n'avait jamais vu une femme aussi belle. Autant dire qu'il tomba amoureux sur le coup. Lorsque les autres partirent, il s'arma de courage et au lieu de s'en aller avec eux, il s'approcha d'elle tout le temps qu'il parla de choses banales, si banales, mon Dieu. Elle le regarda, sans rien dire, en souriant. Enfin, si cela était bien un sourire, à moins que ce ne fût qu'un rictus, peut-être s'était-il fait des idées. Oui, ce n'était peut-être qu'un simple rictus, un imperceptible frémissement de ses lèvres. Mais quand il eut fini, elle lui révéla son prénom, Lisa, et elle lui dit qu'elle était enchantée d'avoir fait sa connaissance. Pris d'une panique soudaine, incontrôlée, il tourna les talons et s'enfuit. Il s'en voulut toute la journée, et il la revit le lendemain. Il s'excusa pour son comportement de jeune premier de la veille, et afin de lui prouver qu'il était capable d'agir en homme et non en enfant, il lui avoua ses sentiments. Elle lui sourit comme la veille, un petit air moqueur sur le visage, et lui caressa la joue, et ce fut le début de leur grande histoire d'amour.
Vincenzo trouvait de plus en plus de prétextes pour revenir. Plusieurs tableaux du Louvre avaient été victimes de vandalisme, si bien que le musée avait décidé de protéger 1000 de ses œuvres les plus importantes. La mise sous verre avait été confiée à la maison Gobier, à Vincenzo donc. Vincenzo et Lisa faisaient ceux qui ne se connaissaient pas. Entre les touristes et les peintres amateurs qui reproduisaient des tableaux au crayon à papier sur de grandes feuilles cartonnées. Ils se perdaient de vue, se cherchaient, se retrouvaient. Il adorait ce jeu. Il se frayait un chemin dans la foule, donnait quelques coups de coude à un ou deux visiteurs qui ne faisaient pas mine de vouloir bouger, et arrivait jusqu'à elle, presque essoufflée et penaud. Elle l'intimidait toujours autant. « Bonjour, ma princesse, tu es encore plus belle aujourd'hui. » « Merci, » lui répondait-elle avant de rougir. Quelle grande histoire d'amour cela avait été entre lui et Lisa. Puis le temps avait passé, et avec lui, les drames de la vie.
Mardi 15 août 1911.
Un plan prit forme dans l'esprit de Vincenzo. Il n'avait jamais fait d'études, ne se considérait pas intelligent, mais il était malin, très malin. Il était surtout déterminé, et la détermination supplée vite le manque d'intelligence. Il retourna plusieurs fois voir Lisa à des heures différentes de la journée, prit quelques notes sur le taux d'occupation des lieux de fréquentation, les périodes d'activité du personnel, les pauses. Il analysa ensuite les données et en déduisit qu'il devait œuvrer tôt le matin lorsque la majorité du personnel ne serait pas encore arrivée au travail.
Dimanche 20 août 1911.
Ce fut leur dernière rencontre. Leur dernière rencontre avant d'être libre. Vincenzo savait qu'il se faisait des idées, mais il ne pouvait s'empêcher de trouver au regard de Lisa une lueur différente. Elle savait. Ses yeux noirs semblaient dire « Viens vite me chercher, mon amour, sors-moi d'ici. Partons ensemble où tu voudras. En Italie, nous y serons heureux. » « Demain, ma Lisa, demain. » Il déposa un baiser sur ses lèvres. Ce n'était peut-être qu'un tour de son imagination, mais il la sentit frémir.
Il prit cela pour un signe, le signe qu'elle désirait tout cela aussi intensément que lui.
Lundi 21 août 1911, 6h.
Vincenzo souffla un grand coup. Dans quelques heures, tout changerait. Il irait voir Lisa ce matin dans une heure. Ce serait leur moment à eux deux. Pas longtemps, mais assez pour mettre son plan à exécution. La peur lui nouait l'estomac. Il n'avait rien dîné la veille. La peur, mais l'excitation aussi. Il allait mettre un terme à tant de souffrances. Lorsqu'il sortit, le jour était déjà en train de se lever. Il prit le bus, fut maintes fois tenté d'en descendre à l'arrêt suivant pour en prendre un autre dans le sens inverse et retourner à la maison. Mais il tint bon. Il descendit du bus et entra dans le bâtiment. Son estomac lui faisait mal, le sang tambourinait à ses tempes, il était dans un état de semi-conscience, mais il ne flancha pas. Il avait enfilé une blouse blanche, semblable à celle du personnel, et on le laissa entrer sans rien lui demander. Le lundi, il n'y avait aucune visite. Voilà pourquoi il avait choisi ce jour-là. Plus tranquille. Plus tranquille pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Il consulta sa montre. 6h50. Le gros du personnel arriverait vers 7h. 10 minutes. Ce sera largement suffisant, se dit-il, en serrant le couteau qui se trouvait au fond de la poche de sa blouse blanche. Lundi, 21 août 1911, 6h51.
Arrivé au premier étage, Vincenzo marcha d'un pas déterminé dans le couloir qu'il avait parcouru des centaines de fois durant ces années. Il entra dans la pièce. Elle était là. Bien sûr qu'elle était là. Elle semblait l'attendre. « Comment vas-tu, ma beauté ? » demanda-t-il. Il se retourna, jeta un coup d'œil vers la porte. Personne. Il le savait. Il se laissait guider par la folie, mais n'était-ce pas se sentir vivant que de se laisser guider par la passion ? « C'est fini, Lisa, » dit-il à voix basse. « Tout va aller beaucoup mieux maintenant, mon amour. »
Lundi 21 août 1911, 6h59.
Vincenzo se déplaça sur la gauche, puis sur la droite. Il nota que Lisa le suivait du regard. Cela l'amusait, le surprenait toujours. Elle devait être amusée que ce visiteur facétieux, car elle affichait un petit sourire mystérieux et pendant quelques secondes, Vincenzo crut qu'elle l'avait reconnue. Il s'approcha d'elle. Elle ne sia pas lorsqu'il sortit son couteau et le brandit devant lui. Elle le regardait sans le voir. Il s'arma de courage. « Tout va aller beaucoup mieux, ma chérie. »
Lundi 21 août 1911, 7h05.
Vincenzo courait comme un fou, serrant Lisa contre lui. Il sentait son cœur battre à tout rompre. On allait les attraper, on le mettrait en prison, mais peu lui importait. La police l'avait déjà arrêté 2 fois pour vol, port d'armes et séjour illégal en France. Et puis plus rien ne lui importait maintenant qu'il avait presque réussi. Il la sentait dans sa main, vivante, si vivante. Plus vivante que jamais, contre sa poitrine aussi. À sa grande surprise, il ne croisa personne dans sa course folle. Lorsqu'il arriva au niveau de la réception, il ralentit, reprit son souffle. Un gardien fumait une cigarette. L'homme le connaissait, il l'avait maintes fois vu ici. Vincenzo le salua en s'efforçant d'être naturel. L'homme répondit à son geste et tout fut fini. En sortant dans la rue, un immense soulagement submergea Vincenzo et il fut pris d'un rire nerveux. Il serra Lisa encore plus contre lui. « Ça y est, ma Lisa, c'est fini. Tout est fini. » cria-t-il heureux comme jamais. Mais en réalité, tout commençait. Leur vie à deux, leur vie ensemble, sans les autres, sans le monde. Elle et lui. Ils montèrent dans le premier bus qui passait. Il l'assit sur un siège et se laissa tomber sur le sien, mort de fatigue. La fatigue que la peur avait engendrée en lui.
Lundi 21 août 1911, 8h13.
Arrivé à la maison, Vincenzo laissa ses clés dans le vide-poche, délassa ses chaussures et se rendit dans la cuisine, assailli d'une frénésie qu'il n'avait jamais connue jusque-là. Dans un tiroir, il déposa le couteau avec lequel il avait découpé la toile. Il se rendit dans le salon, ouvrit sa blouse de vitrier, la même que celle qu'utilisait le personnel du Louvre, et en sortit Lisa. Il la déroula et la regarda, émerveillé. « Qu'est-ce que tu es belle, mon amour !» Il attrapa le cadre à moulure dorée qu'il avait fabriqué pour l'occasion, aux exactes dimensions, il glissa la peinture et accrocha le tout au mur, au-dessus du divan. « Maintenant que tu es enfin ici avec moi, plus personne ne nous séparera. » Vincenzo Perugia, petit peintre en bâtiment et vitrier, immigré, imagina un instant la tête que